Je m'appelle JP, Jean-Philippe Longeron. Je suis né à Nancy il y a 41 ans déjà. Je ne vous dirai pas mon âge. Et je suis très heureux d'être là. Dès que les photos vont apparaître à l'écran, vous verrez ma femme. Ma femme est roumaine. Ça fait 17 ans que je suis en Roumanie. Et on a 4 garçons. Nathan, le plus grand, qui a 15 ans. Et puis ensuite, on a cru que ma femme ne pouvait plus être enceinte. Pendant 9 ans, on n'a rien eu. Puis après, on a eu nos 3 derniers. Elias, 6 ans. Joël, 5 ans. Et Néhémia, 3 ans. À 17 ans, j'ai vécu des choses très fortes avec Dieu. Puis j'étais en fac. Et une de mes prières, c'était « Seigneur, qu'est-ce que je fais ici ? Envoie-moi, sers-toi de moi. Que je fasse quelque chose pour toi. » À 20 ans, j'ai eu l'occasion de servir 4 mois à New York dans une mission qui faisait l'évangélisation dans les ghettos. Donc Harlem, le Bronx, Brooklyn. C'était une énorme mission. Et je suis parti pour 4 mois. Je suis resté 2 ans et demi, 2 ans. Et c'était très formateur. Voilà. Du matin au soir, on prenait le micro, on mettait la musique, on disait « Venez les enfants !» On faisait des jeux et on annonçait l'évangile dans la rue. Et c'était extrêmement formateur pour moi. À 23 ans, cette mission m'a demandé si je voulais aller avec eux en Roumanie, dans un tout autre contexte, on oublie New York. Et là, c'était des quartiers roms, quartiers tziganes, où j'ai travaillé beaucoup, beaucoup d'évangélisation de rue. Et tous les étés, je revenais en France, aussi pour faire l'évangélisation de rue, notamment avec PlayStation, c'est là où j'ai rencontré Emma et Mathieu. Et on allait sur les plages, on mettait les micros dehors, on faisait une danse. Et puis après, on disait, on a un message à vous transmettre, un message de joie. On annonçait l'évangile. Ça a été mes 7 meilleures années de ma vie. Aussi difficile qu'a été l'évangélisation de rue, ça m'a rempli de joie et d'être au contact de gens qui ont soif de Dieu. À 27 ans, JPC est venu vers moi. Ils m'ont demandé d'être directeur de JPC Roumanie. J'ai dit que je n'étais pas intéressé ni pour rester en Roumanie, ni pour être directeur. Ils sont revenus vers moi, j'ai dit non. Ils sont revenus vers moi, j'ai dit ok pour 6 mois, un jour par semaine. Voilà, ça fait 13 ans que je suis directeur de JPC Roumanie. Ça fait 13 ans que j'ai signé pour 6 mois. Quand je suis venu, on était juste deux. Il y avait moi et un autre missionnaire belge, Myung-Soo. Et j'ai vite compris que notre priorité, c'était d'engager des Roumains pour que les Roumains annoncent l'évangile parmi eux. J'ai compris qu'il serait beaucoup plus efficace que des étrangers. Et donc pendant 8 ans, notre principale préoccupation a été de sélectionner des Roumains, les former et les envoyer pour annoncer l'évangile dans leur population. On a donc engagé en 8 ans 8 équipiers, on est une équipe de 10. C'était 2019. Et puis en 2019, on faisait un camp dans un centre que je n'avais jamais vu. Et puis il y a une fille, une Suisse, qui vient me voir. Elle me fait « JP, ça fait 3 nuits que je ne dors pas. » Je me dis « C'est bien, Dieu lui parle. » Je dis « Pourquoi tu ne dors pas ?» Elle me dit « Le centre où on est, où ils font des camps chrétiens toute l'année, le couple de propriétaires est trop âgé et ils veulent vendre le centre. » Et ils disent « S'ils ne trouvent pas de chrétiens pour reprendre le centre, ce centre va s'arrêter, ça va devenir un business. » Et moi, je voyais que c'était Dieu qui l'appelait. Quoi. Donc je dis « Viens avec moi, on va faire une réunion avec eux, on va discuter. » On s'assoit, on a une réunion. On discute, et puis je suis très cash, je suis avec la fille, toi, t'aimerais pas déménager ici pour reprendre ? Et puis elle fait, c'est peut-être un peu cher le centre, vous le vendez combien ? Les propriétaires nous disent, le business, les non-chrétiens qui veulent l'acheter nous proposent 1,5 million d'euros, mais si c'est des chrétiens, on fait une réduction. Ça sera seulement 1 million d'euros. Et la fille me regarde, elle me dit, JPC Roumanie, vous voulez pas l'acheter ? On sourit réciproquement, elle de Suisse qui avait une très bonne situation, nous de JPC Roumanie qui avions d'autres préoccupations. Et on s'est dit on va prier. On prie pendant 6 mois et le plus je prie, le plus j'ai la conviction que Dieu veut qu'on l'achète. Et le plus je me rends compte qu'un million, on avait un budget annuel de 60 000 que vous compreniez. Voilà. Tu comprends, c'est gros 1 million. Hein. Il est choqué aussi. Et un matin, on fait un culte en famille. On prie, je demande à ma femme pourquoi tu veux qu'on prie pour toi, on prie pour elle. Je demande à mon fils aîné pourquoi on prie pour lui. On prie pour lui. Et mon fils de 8 ans, il a 8 ans à l'époque, il me regarde. Il fait « Papa, je peux aussi prier pour toi. Pourquoi tu veux que je prie ? Et je lui dis, écoute, il y a quelque chose qui me préoccupe dans le ministère. Je ne veux pas lui parler de ce million d'euros, mais je dis, ça me préoccupe. Et mon fils de 8 ans prie pour moi. Voilà. Encouragez vos enfants à prier pour vous. C'est incroyable ce qui peut se passer. La journée se passe, et le soir, d'un coup, le même soir, je prends ma calculatrice, et je fais, punaise, 1 million d'euros, c'est 3 000 personnes qui donnent 10 euros par mois pendant 3 ans. D'un coup, ce qui me paraissait impossible, je dis, attends, en fait, si on trouve 3 000 personnes qui donnent juste 10 euros par mois pendant 3 ans, on achète ce centre et on peut permettre, on a 1 000 jeunes qui viennent dans ces camps chaque été, et on peut permettre à 1 000 jeunes de participer à des camps chrétiens tous les étés. Je dis, attends, c'est possible. Donc, on fait les calculs, je vais passer vite, on avait d'autres besoins dans le ministère, vous avez une aide du centre, et puis je me dis, attends, si au lieu de mettre 10 euros, mais 20 euros, on pourrait non seulement engager des nouveaux missionnaires, on pourrait aider ceux qui ont le niveau de vie le plus bas, on pourrait les soutenir. Avec 3 euros en plus, on pourrait acheter du matériel, et puis on pourrait soutenir les besoins administratifs de la mission. Et on a lancé cette opération 3000 steps, chercher 3000 personnes qui donnent 20 euros par mois pendant 3 ans. C'était en 2019 qu'on a pris la décision. Ma stratégie, je me suis dit, dès que 2020 démarre, je ne fais que des voyages dans toutes les églises. C'était mon début, c'était mars 2020. Mars 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, il s'est passé quelque chose. Toutes les frontières se ferment, les églises se ferment. Et notre équipe, qui était de 10 personnes, double en un an. On passe de 10 missionnaires à 20 missionnaires. Je me demande encore comment c'est possible. En fait, Dieu m'a montré, JP, je suis avec toi. Tu as pris un pas de foi et regarde ce que je fais. 2021, Covid n'était pas encore fini. Notre équipe est passée de 20 à 25 missionnaires. 2022, on est passé à 30 missionnaires. Et Dieu nous a montré que c'était lui qui inspirait ce projet, qui était derrière. Dans le même temps, on a commencé la promotion de ce centre. Vous allez voir une petite vidéo, si elle fonctionne. Vous allez voir un tout petit peu le centre, un tout petit peu un camp. Et puis, là où on est arrivé maintenant, en 2024.
J'aime Puerto Elor et tout ce qui se passe ici. Je vois que ça a un impact sur toute la Roumanie. Les enfants qui viennent entendre l'évangile et l'amènent ensuite dans leur village. Les jeunes qui viennent se former et repartent avec une meilleure compréhension de leurs dons. Les églises qui viennent pour une retraite spirituelle et amènent une nouvelle vision à leur communauté. Puerto Elor n'est pas seulement un camping. Ce n'est pas seulement un hôtel ou un espace événementiel. Non, c'est un endroit plein de vie et qui a le potentiel d'avoir un impact durable sur les générations à venir.
This is a second time visit to Port Oloilon, and it's a wonderful and amazing place with wonderful facilities.
Tovább lehetőségem adódott itt dolgozni.
Il n'y a pas les sous-titres. Le premier disait que c'est un quelqu'un qui a mis une équipe, qui disait que le centre était super. Ça, c'est un des jeunes volontaires. Tous les étés, on engage des volontaires, des bénévoles pour servir au centre. Et lui disait qu'en servant là en tant que bénévole, il a rencontré Dieu en fait, et sa vie a été transformée. Ça, c'est des équipiers qui vont faire des retraites spirituelles dans le centre et des camps.
Nous avons dû faire un pas de foi de 1 million d'euros. Cela semblait impossible à atteindre, mais nous sentions que Dieu voulait que nous lui fassions confiance.
Grâce à vous, nous avons déjà payé 800 000 euros.
Nous sommes tellement reconnaissants pour chaque don et chaque donateur. Mais nous avons encore besoin de vous. Nous avons jusque fin 2026 pour parvenir au paiement final. Êtes-vous prêt à nous accompagner jusqu'au bout de ce projet? Merci.
Merci beaucoup. Sur les 3000 personnes, il nous en manque 250. Ça fait 5 ans que je vois Dieu agir. Et je pousse encore un peu. Et si certains d'entre vous sont encouragés ou aimeraient faire un pas, 20 euros par mois, pendant 3 ans, j'ai des flyers à l'extérieur ensuite. Entre-temps, notre ministère, qui était dans 3 régions de Roumanie, s'est étendu à 9 régions. Et donc on a tous les camps l'été, donc on a 1000 jeunes qui viennent dans ce centre, mais on a encore 500 autres jeunes, parce qu'on n'a pas assez de place dans le centre, qui font des camps ailleurs. Et puis, pendant l'année, on a environ 500 jeunes qui font des clubs hebdomadaires où ils entendent l'évangile dans leur culture. Je vais commencer ma prédication, juste avant je vais prier et puis on va démarrer. Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as permis de voir ta main. Je te remercie de ce que je peux témoigner de ce que j'ai vu. Je te remercie de ce que tu nous parles à travers ta parole. Aide-moi à être clair et parle à qui tu veux parler comme tu veux parler ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai hésité pour le titre de ma prédication. J'ai hésité entre deux titres. L'homme qui levait les mains était-il vraiment seul ? Et l'autre, c'était « Il n'était pas seul ». Je me suis dit, je vais mettre un titre et un sous-titre. Ça sera aussi mon introduction et ma conclusion. Vous avez ici ma prédication. Bon dimanche à tous. Il y a un personnage de la Bible. J'aimerais faire réfléchir vos réflexions. Il y a un homme de la Bible, quand il lève les mains, le peuple d'Israël gagne. Quand il baisse les mains, le peuple perd. Ne dites rien à vos voisins, mais ce personnage a un nom, mais il n'est pas le seul. Et j'aimerais que vous essayiez de réfléchir qui encore est dans cette bataille. C'est ça qui m'intéresse. Je vous ai dit, à 17 ans, j'étais transformé par la prière et je prêchais toujours sur la prière. C'était une de mes prédications préférées et j'aimais ce texte. Et je disais à tout le monde, si on prie, si l'Église prie, on est comme Moïse, c'est Moïse, qui lève les mains. Et on va gagner n'importe quelle bataille. Et si on arrête de prier, on va perdre. J'ai 41 ans, ça fait 21 ans que je suis dans le ministère à plein temps. J'ai relu ce texte récemment et j'ai vu les choses un peu différemment. Moïse. On va lire le texte, vous allez voir les différents acteurs. Et après, je vais amener quelques conclusions, quelques explications. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Donc déjà, il y a un peuple, il y a des ennemis. Alors Moïse, il y a Moïse, dit à Josué, qui se rappelait de Josué dans cette histoire ? Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, et bien sûr, des hommes qui se battent, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur. Qui avait Hur dans le texte ? Qui se rappelait de lui ? Les plus anciens, vous connaissez la parole. Aaron et Hur. Ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Quelques observations dans ce texte. La première, c'est qu'il y a un personnage qui n'apparaît pas clairement. C'est Dieu. On dit que c'est Moïse qui lève les bras, il a le bâton de Dieu, mais on ne parle pas de Dieu, c'est intéressant. Et on dit que c'est Josué qui a la victoire. Le combat, Amalek. C'est ma première mauvaise nouvelle de cette prédication. La vie chrétienne est un combat. Qu'on le veuille ou pas, on est toujours en combat. Et des fois, l'Église oublie qu'elle va combattre. Des fois, l'Église oublie que Jésus lui a donné une mission. Et des fois, on se laisse distraire. J'aimais, je ne sais pas quel frère a lu ce texte. Des fois, on se laisse distraire par d'autres choses. En fait, l'Église, qu'on le veuille ou pas, a des buts, a des combats. Et Jésus veut qu'on se lève pour combattre. Un des combats qu'on a, c'est Jésus qui nous le donne à la fin de son ministère avant de partir. Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le peuple d'Israël était esclave, vous connaissez l'histoire. Il passe par les eaux de la mer, il est délivré, il passe par le baptême. Et ensuite, il arrive tout de suite au pays promis, il n'a rien à faire. Vous savez que ce n'est pas l'histoire. Vous savez qu'Israël a dû passer par le désert. Et dans le désert, Dieu les a préparés. C'était lutte après lutte après lutte, jusqu'à ce qu'ils soient aptes à entrer dans le pays promis. Ils rentrent dans le pays promis, c'est Josué, et encore, ce n'est pas tout gagné. Ils ont des luttes jusqu'à obtenir tout le territoire. J'étais chez un ami il n'y a pas longtemps. Je vais dans son bureau et je vois une liste sur son mur. Il y a 5 choses qui sont écrites. Je dis, c'est quoi cette liste? Il m'a dit, j'ai lu un livre qui disait qu'un homme ou une femme ne peut gérer dans sa vie que 5 priorités. On n'est capable de gérer que 5 priorités dans nos vies de tous les jours. Il dit, si on en fait plus, on s'éparpille, on n'arrive pas. Il m'a dit, j'ai pris le temps de réfléchir, de prier et de savoir, moi, quelles étaient mes 5 priorités. J'aimerais vous challenger ce matin. Quelles sont vos 5 priorités? On peut faire 10 000 choses. On peut faire 10 000 choses. Mais en fait, dans une vie, la vie est courte. Le plus je vieillis, plus je me rends compte, il n'y a que quelque chose qu'on peut faire. C'est quoi vos priorités? Et est-ce que le combat de l'évangile est dans ses priorités ou pas? On n'est pas tous appelés à partir à Madagascar, partir en Roumanie, mais on est tous appelés à prendre part à ce combat, d'une manière ou d'une autre. Moïse. Moïse est le personnage principal, et avec ma femme, on s'est souvent demandé, dans les Moïse contemporains, pourquoi il y avait beaucoup de Moïse américains et très peu de Moïse français. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question. Ça nous a perturbés. On connaît en Europe Frère André, il est très connu en France, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui a justement amené des Bibles en Roumanie, qui a fondé Portes Ouvertes. C'est un Moïse moderne. On connaît bien Billy Graham, si vous le reconnaissez, c'est le premier équipé de JPC, on en est tous fiers. Et on sait l'œuvre internationale qu'il a portée. On connaît Lorraine Cunningham, le fondateur de Jeunesse en Mission. On connaît Georges Verver, qui a fondé OM. Et on se dit, pourquoi ils sont américains? On n'a pas le même Dieu? On n'est pas fondé la même chose? J'étais aux États-Unis un jour pour parler du ministère, et je partage à quelqu'un, je dis, oh, on cherche des Bibles, je ne sais pas comment avoir des Bibles. Et il me dit, attends, j'ai l'email de Georges Verver, écris-lui, il va t'aider. Donc, j'avais, je ne sais pas, 25 ans, je rentre chez moi, j'ai cet email de cet homme de Dieu que je respecte. Je dis, comment on écrit à un homme comme ça? Pendant six mois, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux écrire à cet homme? J'ai écrit une lettre, avec des bonnes formules, tout ça, j'appelle un traducteur. Une heure après, Georges Verver m'écrit, il me fait, ah super, tu veux des Bibles? T'en veux combien? J'ai dit, je ne sais pas, j'appelle mon équipe. Une semaine après, je lui ai écrit, encore une fois, les belles formules, on cherche 500 Bibles pour notre ministère, blablabla. Une heure après, donne-moi ton adresse, je te les envoie. Une semaine après, je rencontre les équipiers OM, on reçoit les 500 Bibles gratuitement, on n'a rien fait. Et je discute avec le responsable d'OM, je fais, mais comment vous fonctionnez? Vous avez un budget Bible pour les donner à d'autres associations ou quoi? Il me dit, non, c'est Georges Verver, il aime donner des Bibles. Tu lui as écrit, il a payé l'impression et l'envoi de ses 500 Bibles pour vous. Je ne sais pas, je ne connais pas des gens comme ça en France. Des gens passionnés. Et j'ai dit, qu'est-ce qui cloche? On a le même Dieu, en fait. En observant la vie de Moïse, je me suis rendu compte que Dieu a utilisé 2 choses pour lever Moïse. Un, les circonstances de la vie. La vie de Moïse est très bizarre. Il est éduqué par des gens qui voulaient le tuer. Il est ensuite rejeté par le peuple dont il est issu. C'est très bizarre, sa vie. Il est dans la vie royale. Ensuite, il va dans les montagnes s'occuper de moutons. Il y a la vie que Dieu lui propose, mais surtout, je me suis rendu compte qu'il a reçu une très bonne éducation. Et Dieu m'a challengé sur l'éducation qu'on donne à nos enfants. Moi, en tant que papa, j'ai 4 garçons. Et moi aussi, en tant que chrétien et mon église, quelle est la priorité qu'on donne à l'éducation de nos enfants et nos jeunes? L'éducation française... Elle est bien sur certains aspects, mais sur d'autres, elle détruit les pensées de nos enfants. Et si on n'a pas des éducations fortes, en tant que parents, en tant qu'église, observez attentivement ce que vont devenir vos enfants. On ne peut pas se permettre, en fait. On ne peut pas se permettre de passer à côté de ça. Dieu fera de nos enfants des Moïse, mais qu'importe si ce n'est pas des Moïse. Au moins que ce soit des gens ancrés dans la parole. On est dans une époque où on ne peut surtout pas déléguer l'éducation de nos enfants à quelqu'un d'autre. On doit prendre nos responsabilités. En tant que parents et collectivement en tant qu'église. Moïse, il est gentil, mais si Moïse avait juste levé le bras, bon, bah, les Amalécites, ils tuaient Moïse, en fait. Moïse, t'es gentil, mais Moïse avait une armée avec lui. Il y avait des hommes, il y avait Josué qui combattait avec lui. On est très amis avec un couple pasteur. Il est âgé. Il y a 3 ans, il a fait un infarctus. Et on a cru qu'il allait mourir. Et on sait que Dieu a permis qu'il ait ça pour qu'il prépare sa relève. Ce pasteur, cet ami, c'est un ami qui aime diriger son église, qui a beaucoup de mal à laisser des Josué prendre la place. Et on regarde son église et on voit des hommes capables qui pourraient être compétents à prendre la suite et on voit qu'il n'arrive pas à leur laisser la place pour s'exprimer. Et c'est dramatique. Dieu lui a montré qu'il allait partir et cet homme, Moïse, n'arrive pas à lever un Josué pour prendre la suite. Je vous ai dit que ma femme, pendant 9 ans, elle n'a pas réussi à avoir d'enfant. Et nous, le jour où on s'est lancé dans ce projet d'achat de centre, on a reçu 3 enfants. J'ai fait, Seigneur, tu n'aurais pas pu faire les choses différemment? Enfin, je ne dors pas, j'ai une pression de travail qui est incroyable. Dans le même temps, notre équipe grandit de 10 à 30 missionnaires. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi gérer un missionnaire, je sais c'est quoi. Je peux vous dire que gérer 30 missionnaires, ce n'est pas joli. Donc moi, d'un coup, j'ai mes 4 enfants, c'est pas joli. J'ai le 1 million d'euros qui est compliqué. Et j'ai ces 30 missionnaires qui me demandent de l'aide. Et je fais, Seigneur, pourquoi tu me donnes tout d'un coup? Qu'est-ce que tu fais? J'ai lutté avec ça pendant 2 ans et Dieu m'a appris quelque chose. Il m'a dit, JP, arrête d'être un Josué. Sois un Moïse et lève des Josué qui vont gérer tout ça. Lève des Josué, tu peux pas tout faire. Et moi, je te demande de lever le bâton. C'est tout ce que je te demande. Tu dois lever des Josué. On était à une retraite avec tous nos équipiers il y a 2 semaines en arrière. On avait 50 missionnaires, on avait nos 30 missionnaires, des jeunes leaders, des missionnaires moldaves. Et je suis arrivé à ce week-end et j'ai rien fait. Je me suis assis. J'avais quelqu'un qui gérait l'organisation, j'avais quelqu'un qui gérait la relation participant, j'avais quelqu'un qui gérait les finances, j'avais quelqu'un qui gérait la louange, j'avais quelqu'un qui gérait les enfants. J'ai rien fait. Je me suis assis. À un moment, on m'a dit, JP, il manque un traducteur. Tu veux pas traduire? J'ai dit d'accord, je me lève pour traduire. Et quand je traduis, à un moment, je regarde celle qui prêchait, je dis, attends, il faut faire une pause. On a fait la pause, elle m'a fait confiance. J'ai pris la parole, je sentais qu'on devait prier pour quelque chose en particulier. On prie pour ça, 10 minutes après, il y a un arc-en-ciel qui brille dans le ciel. Dieu ne voulait pas que je gère l'organisation. Dieu ne voulait pas que je gère les enfants. Dieu ne voulait pas que je gère le programme. Dieu voulait que je sois disponible, que je sois à son écoute. Et au moment où il avait décidé, il y a quelque chose que je devais dire. C'est compliqué quand on était Josué de ne plus être Josué. C'est très compliqué. Vous comprenez, la mission, quand je l'ai prise, il y avait un missionnaire. Donc je connais, je sais comment gérer un missionnaire. Je sais gérer 30 missionnaires, je sais gérer. Mais Dieu m'a dit, arrête JP, arrête. Va sur la montagne, lève le bâton. Cherche des Aaron, cherche des Our. Quel rôle le peuple doit prendre? Il y a une histoire qui est souvent prêchée et qui est peut-être mal comprise. Je veux la réexpliquer ce matin. Cette histoire, c'est comme des parents qui ont un ado de 14 ans, 15 ans. Et les parents deviennent très stricts. Les parents vont voir l'ado et vont dire, maintenant les samedis, tous les samedis, c'est toi qui vas faire les courses, c'est toi qui vas faire le repas, c'est toi qui vas faire la vaisselle. Le samedi soir, c'est ton repas de A à Z. L'ado, il est choqué. Il fait, attends, le samedi soir, c'est les potes, c'est le foot. Il dit, si tu veux aller avec tes potes, gère déjà leur repas et après, tu vas voir tes potes. Et tous les samedis, le jeune apprend à faire les courses, faire à manger, faire le budget, faire la vaisselle. À bout de 2 mois, les parents vont que ça va bien. Ils disent, maintenant, le mercredi, c'est ton jour de linge. On ne fait plus ton linge. Le mercredi, tu as la journée, tu as la machine à laver, c'est toi qui fais ton linge. Et on va donner un budget pour t'acheter tes habits. On ne t'achète plus tes habits, on ne fait plus ton linge, à toi de le faire. L'ado, il hallucine, quoi. Il dit, c'est quoi mes parents? Hein, il s'énerve. Les parents ne cèdent pas. Non, les mercredis, c'est linge. Arrivent les vacances scolaires, les parents disent, on t'a trouvé un job d'été. 1 mois et demi, tu vas travailler à tel endroit. Le jeune s'obstine à refuser, il va bosser, il revient, il est content, il reçoit de l'argent. Les parents s'assoient avec lui et ils disent, t'as reçu combien d'argent? Ils disent, on va te laisser la liberté d'en utiliser une partie, mais on veut un budget. Tu n'auras pas le droit d'utiliser cet argent tant que tu ne nous montres pas un budget. Et le jeune fait le budget, les parents voient, ils disent, bah attends, elle est où les 10% à l'église? Ah, le jeune revient, il fait 10% à l'église. Il revient, les parents disent, elle est où ton abonnement téléphone? Tu penses que nous qui allons encore le payer? Le jeune, il est dégoûté. Il fait son budget et les parents disent, ok. Les parents font ça pendant 3 ans. À bout de 3 ans, c'est l'anniversaire du jeune. Il l'amène dans un resto, il l'amène au bowling, il rentre chez eux. Et les parents commencent à laver les pieds du jeune. Et les parents disent, tout ce qu'on t'a demandé, c'était pour te servir. Tout ce qui t'a paru difficile, c'est parce qu'on voulait que tu deviennes un homme qui prenne les vraies décisions. T'as 18 ans, t'es prêt. On a vu, tu sais gérer tes lessives, tu sais gérer un budget, tu sais travailler, tu sais prendre des décisions. Mon fils, tu es prêt à partir de la maison. C'est ça que Jésus fait quand il lave les pieds de ses disciples. Vous comprenez? Jésus ne fait pas des crêpes à ses disciples tous les matins. Ce n'est pas ça qu'il fait. Jésus, quand il lave les pieds de ses disciples, il dit, vous m'appelez maître et vous le faites bien. Jésus n'avait pas de souci de donner des ordres. Mais il donnait des ordres pour que les disciples puissent ensuite prendre la responsabilité de l'Église. Des fois, on croit que ce n'est pas fun d'être le peuple. On croit, ah, pourquoi c'est encore moins de ménage? Ah, c'est encore moins de gérer la garderie? Ah, on doit encore faire une collecte à l'Église? En fait, Jésus vous éduque. Parce qu'il veut lever d'entre vous des leaders. Mais Jésus, c'est un Père qui vous aime. Et tant que vous n'allez pas comprendre certaines choses, en fait, il ne va pas insister, mais il sait ce que vous ratez. C'est ça, Jésus, qui lève le pied de ses disciples. J'espère que vous voyez ce texte différemment aujourd'hui. J'ai une période très compliquée dans le ministère, il y a 7 années en arrière, extrêmement compliquée. J'étais perdu, je ne sais pas quoi faire. J'appelle un couple de missionnaires, je fais, est-ce que vous ne pouvez pas juste m'écouter, faire une réunion, m'écouter et me donner des conseils? Et puis je me suis dit, je vais appeler d'autres personnes aussi, j'ai besoin de différents conseils. J'ai appelé 5 couples de missionnaires avec la même requête. Et j'aurais dit, voilà, j'ai tant de difficultés en ministère, j'arrive pas, c'est trop compliqué. Est-ce qu'on peut juste en parler? Vous me conseillez, vous priez pour moi. Je ne savais pas que Dieu me poussait à bout pour que je cherche un Aaron. On ne peut pas... J'ai discuté avec Alban hier soir. Je ne sais pas où elle est, Alban. On ne peut pas partir seul en mission. Ce n'est pas possible. On peut partir. On peut partir seul en mission et se cramer les ailes. Alban a besoin de vous. J'avais besoin d'amis qui priaient pour moi, qui m'écoutaient, qui me conseillaient. Ensuite, la pression de ce million... Au début, pendant 1 an, c'était fun. Puis, à bout de 2 ans, j'en pouvais plus. Je vomissais ce bâtiment. Et puis, une dame qui est venue, elle a fait, on ne pourrait pas prier pour ça toutes les semaines? Et tous les jeudis, pendant 1 demi-heure, j'ai 3 dames qui prient juste pour les finances de la mission. Je leur ai dit, on ne parle pas des ados, on ne parle pas de ma famille, on parle juste des finances de la mission. C'est bizarre, hein? J'ai trouvé mon hur. Tous les jeudis, à 11h, de 11h à 11h30, on prie pour les finances de la mission. Je remercie mes amis, je pense à Emma, à Mathieu. Je remercie les amis qui ne mettent pas d'attente sur moi, qui je peux être, qui je suis en fait. Je remercie mes aides. C'est tous des harons et des hurs qui m'aident à tenir. Je me suis arrêté sur la pierre. Le contact humain est important, mais Moïse aussi a besoin d'un soutien matériel. C'est comme ça, en fait. On aimerait que Jésus fasse des miracles. On aimerait que les missionnaires ne nous demandent pas d'argent. On aimerait qu'on les bénisse, on dise vas-y. Mais en fait, Dieu veut que ceux qui servent Dieu soient soutenus par l'Église. C'est comme ça. On aime, on n'aime pas, c'est comme ça. J'avais 20 ans, je suis parti, j'avais un tout petit caillou. Et c'était OK, j'avais 20 ans. Je pouvais manger n'importe quoi, dormir n'importe où, c'était pas grave. Puis je me suis marié. Je me suis rendu compte que ma femme et moi, ça n'allait pas sur le caillou, en fait. Il fallait un soutien plus conséquent. Ensuite, on a eu notre premier fils. Et d'un coup, j'ai eu 4 fils. Ça fait 20 ans que je suis dans le ministère et je cherche encore à avoir une pierre suffisante. Pas pour... Enfin, comprenez, il n'y a personne qui fait le ministère pour être riche. Hein. Comprenez-nous bien. Hein. Mais des fois, on a juste besoin de s'asseoir, en fait. On est des gens comme tout le monde. Vous avez besoin de vacances, bah, les pasteurs, les missionnaires, ils ont besoin de vacances aussi. Je ne sais pas comment le dire différemment. Et je vous demande de prier pour nous. On a aussi la possibilité de nous soutenir derrière. Mais j'ai hésité à parler de cette partie. Et je me suis rappelé d'un ami, Paul, qui est un super évangéliste, qui a fait un burn-out parce qu'il n'est pas assez soutenu. Je me suis rappelé d'un couple d'amis, David et Valérie, qui ont fait un institut biblique, qui ont démarré le ministère, qui ont fait une lettre d'appel aux dons, qui ont reçu zéro réponse. Ils ont dû arrêter leur ministère, il a dû monter une entreprise pour pouvoir servir Dieu. La liste est longue. Et je pense que c'est quelque chose de culturel en France, on a du mal à concevoir ça. Mais il y a beaucoup de... Enfin, si l'Église veut des Moïse, il faut que l'Église soutienne ses Moïse. C'est comme ça. Zoom sur Aaron, je vais aller vite. Il y a quelque chose qui est intéressant sur Aaron que j'ai découvert. Aaron, c'est le numéro 2 de ce combat, du peuple d'Israël. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse ne veut pas y aller. Il dit, attends, je ne sais pas parler. Donne-moi quelqu'un de solide, quoi. Quelqu'un sur qui je peux compter. Dieu lui donne Aaron. Aaron accompagne Moïse dans le Pharaon, dans toute l'histoire. Et à un moment, Moïse dit, écoute, je vais sur la montagne. Deviens numéro 1 du peuple, quelques jours. C'était Moïse le numéro 1, ensuite c'était Aaron le numéro 2. Et Moïse dit, Aaron devient numéro 1 quelques jours. 40 jours. 40 jours, Aaron a fait un veau d'or. 40 jours. 40 jours, punaise. Un excellent numéro 2. Aaron, c'était un excellent numéro 2. D'ailleurs, Moïse lui a demandé ensuite de gérer tous les lévites. C'était un excellent numéro 2 et c'était un très mauvais numéro 1. J'ai vu des gens dans le ministère qui voulaient m'aider et qui ont voulu être numéro 1. En fait, j'ai trop vu ça. Et ce n'est pas un souci, en fait. Si Dieu te demande d'être numéro 1, Dieu va conduire la circonstance, tu seras numéro 1. Mais si Dieu t'appelle à être numéro 2, en fait, sois numéro 2. Porte la main de Moïse. Et ferme ta bouche, en fait. Sois heureux de faire ça, vraiment. Les jeunes regardent Moïse de loin et disent, c'est quoi ce barbu qui lève les bras? Tout le monde pourrait faire ça. Non, tout le monde ne peut pas faire ça. Et Dieu sait pourquoi il a choisi Moïse. Laisse Moïse être Moïse et sois un bon Aaron. Moïse a besoin d'un très bon numéro 2. Il en a besoin de deux d'ailleurs, Aaron et Hur. Le bâton de Dieu, j'ai beaucoup prêché ça quand j'étais jeune. Pour moi, ça représentait une seule chose, la prière, c'était évident. Et puis les années ont passé, je vois autre chose. Je me demande si ça représente Dieu. Je me demande si ça ne représente pas aussi l'obéissance. Dieu nous demande des choses bizarres des fois. Il y a une seule fois dans la Bible où Dieu demande à un homme de lever le bâton. Ce n'est pas quelque chose qu'il demande à tous les pasteurs. Hein. Laurent, tu ne dois pas venir. Enfin, peut-être. Je ne suis pas Dieu. Hein. Mais le travail spirituel, ce n'est pas de lever des bâtons. Hein. On est d'accord. Mais il a dit, pour cette bataille, tu vas faire ça. Il a dit à Noé, toi, tu dois construire une arche. En fait, Dieu, des fois, nous demande des choses bizarres. Et notre seul rôle, ce n'est pas de commenter, c'est d'obéir. Obéir en croyant que Dieu va agir. Je me demande aussi si c'est par la persévérance. Un an de mission, au début c'est fun. 2 ans, c'est moins fun. 20 ans, des fois, on se dit, oh, Seigneur, encore, j'en peux plus. J'ai les mains qui tremblent, j'arrive pas à m'asseoir. Le bâton de Dieu. J'ai 3 questions à vous poser, je vais vous laisser avec ça, je vais prier encore après. C'est quoi votre place dans l'église locale? Est-ce que vous devez être un meilleur soldat, un soldat plus obéissant à son maître? Est-ce que vous êtes un Josué Josué, c'est lui qui prend tous les risques dans la bataille. Ce n'est pas Moïse. Josué, il a le rôle le plus complexe. C'est lui qui peut... Vraiment, il est au contact du combat. Est-ce que vous êtes un Josué? Et vous êtes un bon Josué? Est-ce que vous êtes un Moïse? Et votre but, c'est de persévérer? Est-ce que vous êtes un Aaron ou un Hur? C'est quoi votre place? Est-ce que vous êtes fidèle à ce que Dieu vous a demandé? C'est quoi votre place aussi individuellement, mais aussi en tant qu'Église, dans l'Église globale? L'Église globale est merveilleuse. Et Dieu nous permet de pouvoir intervenir dans le monde entier. Il y en a peut-être d'entre vous qui vont connecter avec JPC Roumanie. Je suis à la fin. Si vous voulez plus d'informations sur le ministère, n'hésitez pas à me voir à la fin. Alors Seigneur, je te remercie de ta parole. Je te remercie des exemples que tu donnes dans la Bible. Je te remercie pour les Josué, les Aaron, les Hur, les soldats dans lesquels on peut chacun s'identifier. Aide-nous à être fidèles à ce que tu nous demandes de faire, même quand c'est difficile. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.